Avant de plonger dans le deuxième sujet, je vais vous faire entendre, aux commissaires et aux auditeurs, la ritournelle du Parti québécois en 76. Je pense que c'est la toune la plus efficace que j'ai vue en politique, puis le slogan le plus efficace. Extrait.
À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, c'est vraiment on y tient. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, c'est vraiment on y tient.
C'était quand même quelque chose.
Sais-tu ce que ça avait? C'est que c'était porteur d'une émotion que je ressens encore. C'est-à-dire, et c'est ça, je trouve, qui n'est plus, dans un mot, t'as plus ce contenu émotif, là, tu sais, l'espoir, tu sais.
Non, non, mais là, c'est, là, c'est a... maintenant.
Ouais,
c'est populaire. C'est sérieusement.
C'est à la hauteur du gazon.
Ouais. OK. Bon. Le cannabis, évidemment, il y a des parents et il y a eu ce témoignage dans la presse. On en a beaucoup parlé ici. Il y a eu plein de témoignages de parents qui ont des jeunes qui consomment du cannabis. Et ce qui amène chez eux, là, c'est à peu près, paraît-il, 5 % des cas, mais quand même des cas de psychose.
Oui. Comme moi, j'ai souvent dit dans ce débat-là, comme citoyen, je suis pas content que ce soit légalisé. Je suis pas content que ça existe, des drogues comme ça. Je suis pas un consommateur, personnellement, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de criminaliser beaucoup de citoyens pour une substance qui est hyper répandue. Moi, comme je dis, je consomme pas. Si je veux en trouver demain matin... Je connais du monde qui vont m'en trouver. Et c'est le cas pour la plupart des gens qui nous écoutent. Comme père, c'est sûr que je suis inquiet. J'ai pas envie que mon père, que mon fils tombe là-dessus comme le fils de la dame que tu as interviewé, qui était dans la presse il y a une couple de jours en fin de semaine. C'est un cauchemar de parent que ton enfant devienne perturbé mentalement, qui développe une condition psychiatrique parce qu'il a consommé. Mais au final, dans la balance des inconvénients, moi, je pense qu'on est mieux dans le régime vers lequel on s'en va. Parce que dans le débat actuel, juste rappeler une affaire, je le dis là, avec beaucoup de douceur, Paul, là, ça existe. Des fois, j'entends là, des arguments, puis tu écoutes des gens, puis tu te dis, mon Dieu, est-ce que vous savez qu'on peut en avoir sur un simple coup de fil présentement? Je pense que le débat était mal foutu par ailleurs. Là. Ottawa a précipité tout ça. Mais au final, on va être mieux dans le régime qui va prendre effet en octobre que présentement, à mon humble avis.
Bon, on en a beaucoup discuté, et puis effectivement, on est confronté avec la décision que ça va être légalisé, que ça l'est déjà, en fait, dans les lois. Le problème, par exemple, il n'est pas sans nous inquiéter quand on pense au lien qu'il y a entre schizophrénie et consommation. Puis j'ai cherché un petit peu à comprendre mieux ce lien-là. Et ce que je vois, rapidement, là, la recherche n'est pas exhaustive, mais je vois bien qu'il y a un lien entre les deux. Et ce lien-là, il est, comment dire, double. C'est-à-dire que si tu as une tendance schizophrénique, et là, il y a plein d'études qui parlent de vulnérabilité neuropsychologique. Donc, tu as peut-être la génétique, tu as peut-être des phénomènes, des dysfonctionnements des neurotransmetteurs. Autrement dit, quand tu as déjà structurellement, tu as une ouverture, si tu consommes, là, ça peut être un déclencheur. Et à l'inverse, quand tu consommes, tout d'un coup, ça peut révéler jusqu'à un certain point tes manques ou tes problèmes structurels.
Je l'ai dit, on est tous conscients que légal ou pas légal, les gens consomment puis que la drogue a un effet.
Oui.
Mais dans le témoignage de Mme Lévesque, c'est aussi les obstacles dans le système pour faire traiter ton fils. Puis là, la question fondamentale qu'on pose, là, jusqu'où on va aller pour resserrer les lois pour traiter des gens contre leur gré?
Oui, ce qui est une autre question qui n'a pas beaucoup de rapport avec à consommer, à légaliser ou pas le cannabis.
Oui, mais quand tu as un fils qui est en psychose, là, puis tu veux le faire traiter, là,
qui veut pas,
on doit-tu le forcer?
Ben là, tel que moi je l'ai écouté cette entrevue-là tout à l'heure, écoute, c'est très troublant. Parce que ce qu'elle dit, c'est dès qu'il est traité, qu'il est soigné, il va mieux.
Ouais.
Et tout d'un coup, on est en train, semble-t-il, de quasiment résoudre le problème. Et là, s'il décide de ne plus être traité, il redevient dangereux pour lui-même et pour les autres. Alors là, la limite de jusqu'où on laisse le libre arbitre, moi je pense qu'elle pose très bien la question. Puis pour avoir dans mon entourage des gens qui ont ce comportement-là d'être, d'avoir une certaine forme de schizophrénie. Dans certains cas, l'utilisation du pot n'est pas nécessairement nocive. Mais j'ai vu des cas où ça dégénère rapidement. Moi, je suis pas opposé à la légalisation du cannabis, mais je suis inquiet du fait que ceux qui n'y avaient peut-être plus difficilement accès vont pouvoir y avoir accès maintenant. Donc, le nombre potentiel de liens entre maladie mentale et consommation, il risque d'augmenter. Mais, alors, il faudrait qu'on, au moins, on prévienne ça.
Je parlais avec Jean-Sébastien Fallu, qui est un intervenant dans les médias, sur ces questions-là de dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue, etc. Ça fait longtemps que Jean-Sébastien Fallu, qui est prof à l'Université de Montréal, dit qu'il faut décriminaliser, qu'il faut cesser de criminaliser les gens pour l'usage de drogue. Et il y a de très bons arguments. Et ce qu'il me disait, c'est oui, c'est ce que tu dis là, c'est vrai, peut-être que ça va être plus accessible, mais le pot légal a des composantes qui rendent ça moins nocif que le pot de la rue. Ça, c'est d'une part. Oui, c'est... Juste revenir sur la question des gens qui sont en psychose, par exemple, et qui ne veulent pas être traités. Moi, combien de fois j'ai fait des papiers dans la presse là-dessus où des gens t'appellent, te disent, écoutez, mon fils, ma fille, mon père ont des problèmes de santé mentale graves, danger pour eux, danger pour d'autres. Et oui, ils sont amenés à l'hôpital et ils sortent après 24 heures, dans à peu près le même état. Écoute, je ne veux pas tomber dans le pathos. Moi, j'ai été un peu talonné par quelqu'un comme ça, qui pensait que j'étais l'antéchrist et qui me suivait un peu. J'ai parlé à son psychiatre, parce que je l'ai appelé, j'ai su c'était qui. Je dis, écoutez, pourquoi vous l'avez relâché? Il tient des propos qui sont extrêmement troublants. Il m'envoie des vidéos de 45 minutes où il délire. Et vous me dites que ce gars-là, il est apte à retourner? Et la réponse, c'est à peu près que c'est extrêmement difficile de garder quelqu'un
aller chercher une ordonnance de cour là, pour soigner quelqu'un contre son gré, lève-toi de bonheur.
Lève-toi de bonheur. Ça va arriver.
Oui,
ça va être long. Et dans l'intervalle, il peut arriver des affaires. Et moi, j'écoutais le témoignage de cette femme-là qui est venue à ton micro. Et c'est exactement ce dilemme-là. On ne veut pas retourner dans une époque où, tu sais, sur une simple dénonciation, tu vas interner des gens à l'asile. Mais tu regardes présentement, OK, la personne a le droit de refuser des traitements, soit, mais il y a un danger pour d'autres personnes. Et ce danger-là, je pense qu'on le sous-estime.
En tout cas, entre, disons, le cannabis, puis dans tout ce que j'ai lu, le cannabis, c'est une... Donc, il y a une relation, là, de déjà quelqu'un qui est dans un état sensible. Mais c'est pas la seule cause. Ce qu'on disait dans les études là, que je lisais, c'est qu'il peut y avoir des choses aussi bêtes que l'intimidation, stress, l'alcool. Les causes pour déclencher une maladie sont nombreuses. Mais parmi ces causes-là, il y a quand même... le cannabis. Alors,
conclusion, Monsieur le Commissaire.
Oui, je veux juste rappeler une affaire. Puis je rappelle ce fait-là à chaque fois qu'il est question de débat sur le cannabis. Maudit que les libéraux de Justin Trudeau ont cafouillé dans cette affaire-là. Moi, je l'ai dit tantôt. Je pense que fallait le faire. Mais ce débat-là, on l'a pas eu collectivement. Le gouvernement a été élu. Oui, il y a eu des commissions parlementaires, etc. On aurait dû avoir collectivement, comme Canadiens, une sorte de commission, comme on a eu au Québec avec Mourir dans dignité, pour vider la question et rassurer les gens.
Mais
c'est
un enjeu dans la campagne électorale. Legault veut ramener ça à 21 ans et non pas 18 ans. Ça peut devenir un enjeu.
Le problème principal, j'écoutais M. Lafrenière, c'est moi, je pense que le problème principal, c'est d'abord, ça ne mettra pas fin au commerce illégal.
Ah ben non,
c'est officiel. Deuxièmement, il y a du recyclage d'argent.
Mais c'est officiel.
Il y a des hells dans ce commerce-là légal. Il y a une utilisation éhontée des paradis fiscaux dans le financement. À qui ça sert, à qui ça profite? C'est plus là, les questions. C'est pas tant que ça soit permis de consommer du... C'est juste l'entourage de tout ça sans bizarrement, aussi fort qu'un joint fort.
Et ce qu'on me dit, c'est que la toune du PQ était une pub destinée au départ à Hydro-Québec. Hein? Hydro-Québec l'a refusé.
Disons-le, chanson de Stéphane Venn.
Oui, chanson de Stéphane Venn. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais il y a quelqu'un qui nous dit ça. Ça arrive souvent, quelqu'un compose un jingle, puis le jingle, la ritournelle, est refusé, puis ça se ramasse ailleurs. C'est Sylvain qui nous a dit ça? Bon, OK, parfait. Notre expert en musique. Merci. 8h56. L'autoroute d'Écary.